Les 6 semaines que Gobineau vient de passer chez son amie la comtesse de La Tour, au château de Chaméane en Auvergne, et qui devaient s'avérer les dernières de sa vie, sont les plus heureuses qu'il ait connues depuis longtemps. Contre toute attente, l'altitude a eu raison de sa fièvre. Au premier froid, il décide pourtant de rentrer à Rome. Il y voit à peu près rien, tient à peine sur ses jambes, et on doit donc lui préparer son itinéraire qu'on lui recopie et qu'on glisse dans la poche de son manteau, avec le nom des hôtels où il dormira le soir, d'abord à Lyon puis à Turin, un dernier arrêt étant prévu à Pise chez un ami. Mais quand on a traversé la Perse en caravane et le Caucase à cheval, ces précautions agacent, et Gobineau brûle les étapes, voyage de nuit de Lyon à Turin où il doit s'arrêter à bout de force. Il dîne à l'hôtel qu'on lui a indiqué, le Grande Albergo Liguria, à quelques minutes de la gare, et dicte au portier une lettre en italien à la comtesse, au dos de laquelle il griffonne ses derniers mots. Après le repas, il sent ses jambes se dérober sous lui, mais insiste néanmoins pour partir, et cela se termine ainsi. La comtesse de La Tour, qui a pris à 2 jours d'écart la route de Rome, vient s'incliner sur la dépouille et repart dans la foulée. Ni la femme ni les filles de Gobineau ne semblent avoir répondu au télégramme les informant de sa mort. Seul assiste à la messe funéraire, célébrée dans la chapelle du cimetière Parata a Lutto, le consul général de France Charles Champoiseau, flanqué de son état-major, le jeune baron Louis d'Avril, représentant de la famille, Albert de La Tour, beau-frère de la comtesse, et le comte Ugo San Vitale, ami et exécuteur testamentaire du défunt, qui juge la cérémonie très convenable. Le comte San Vitale, le baron d'Avril et le comte de La Tour choisissent ensuite ensemble l'emplacement où reposeront les cendres du penseur visionnaire jusqu'à leur rapatriement, auquel personne ne se souciera jamais de procéder. Seule sa sœur Caroline, en religion mère bénédicte de Gobineau, continue d'estimer qu'il en va de l'honneur de la famille que de ramener le corps dans le tombeau de son père à Redon, sur lequel le défunt avait récemment émis le désir d'aller se recueillir. Recluse dans un couvent, obèse et impotente, le sein dévoré par une tumeur ouverte, sans argent, elle n'y peut pas grand-chose. La dernière lettre que la maladie lui laisse la force de dicter est pour dire qu'elle renonce. « Puisque la concession est perpétuelle, peut-être vaut-il mieux que nous laissions, écrit-elle, en France, plus rien n'est perpétuel. » Voilà, c'est comme ça que ça commence. Je vais pas commenter. C'est pas la peine. Allez. Oui, je voulais vous lire un passage suivant où je serais sincèrement intéressé que vous me disiez ce que vous en pensez, parce que ça a été un peu une expérience pour moi d'écrire les choses de façon un peu différente. Donc je m'intéresse pas mal un peu dans la suite du livre à ce personnage donc, qui s'appelle Ludwig Schemann, qui était son traducteur, qui est un personnage relativement ennuyeux, donc je retarde au maximum le moment d'écrire sur lui parce que j'ai du mal à m'y intéresser, mais enfin, ça... Ça fait partie du job. J'ai une petite partie sur Chamberlain, donc ce théoricien raciste qui a été le principal inspirateur de Hitler. Alors, pour que vous compreniez ce que je raconte, je crois que la seule chose... Je ne lis pas tout parce que ce serait un peu long. Il y a des passages sur l'édition de ses œuvres, etc., qui ne sont pas forcément très intéressantes. La seule chose que vous avez besoin de savoir, c'est qu'à un moment donné, je vais parler d'un personnage qui s'appelle Willy. Et Willy, c'est Guillaume II, l'empereur d'Allemagne, que tout le monde dans son intimité appelait Willy, puisque c'était quand même le petit-fils de la reine Victoria. Enfin, il parlait beaucoup anglais à la cour de Berlin. Et puis comme ils étaient très... C'était une cour où les gens avaient des rapports très affectueux et très tendres, donc ils donnaient énormément de surnoms. Donc Guillaume II, c'était Willy. Lucerne, 1870. Poor little one est bien triste, bien seul et bien malade. C'est pour cela que tout le monde l'appelle Poor little one. Il est beaucoup trop malade pour supporter la discipline de ces écoles militaires où son papa l'a envoyé, et l'affreux climat de cette horrible Angleterre, et cette grande maison vide où plus rien ne lui rappelle sa maman. Ce qu'il faut à Poor little one, c'est le grand air, la nature, la montagne, les Alpes, la Suisse, les lacs, Lucerne. Le lac de Lucerne. Poor little one canote sur le lac de Lucerne, essayant chaque jour de se rapprocher davantage d'une grande maison mystérieuse où les touristes essaient d'espionner le grand musicien qui y habite avec la femme de son chef d'orchestre. Poor little one n'a jamais eu le droit d'apprendre la musique. Son papa dit que c'est pour les filles. L'air de la montagne fait du bien à Poor little one, mais tout ce canotage le fatigue quand même beaucoup, alors sa gouvernante l'emmène se reposer un peu à Ems, en Allemagne. Dans les gares, il admire les soldats prussiens en route pour envahir la France. Qu'ils sont beaux, qu'ils sont forts. Lui aussi, quand il sera grand, il sera allemand. Il aime entendre le canon tonner sur Strasbourg, Chaque bombardement le fait battre des mains, que la guerre est excitante. L'hiver suivant, il retourne avec sa gouvernante en Suisse, à Montreux cette fois. C'est vrai que c'est très joli, mais il fait un peu froid, et Poor Little One tombe à nouveau malade. Alors l'année d'après, sa gouvernante invente un autre système. Ils iront passer les hivers en France ou en Italie, où il fait moins froid, et les étés en Allemagne ou en Suisse, où il fait moins chaud, et l'air y est plus pur, et d'ailleurs tous les gens convenables vont passer leurs vacances en Suisse, ou dans un bad quelque chose en Allemagne. Un jour, à Interlaken, Poor Little One rencontre deux jeunes musiciens, qui lui expliquent que le grand musicien de la dernière fois, dans la grande maison au bord du lac, avec la femme du chef d'orchestre, est l'ami d'un prince très beau et très riche, et que le prince lui a donné beaucoup d'argent pour qu'il fasse construire son propre théâtre, où on jouerait seulement sa musique à lui, et une belle maison pour habiter avec la femme du chef d'orchestre. Et tous les ans, on ferait une grande fête, où on jouerait la musique du musicien, et tout le monde pourrait venir. Poor Little One est emballé, et comme son papa vient de mourir et que ça lui fait encore plus d'argent qu'avant, il en donne un peu aux amis du musicien pour l'aider à construire son théâtre plus vite. Et puis il se marie avec une femme pas très jolie, beaucoup plus vieille que lui et pas très intelligente, mais très gentille. Et il part étudier la botanique à Genève, où il achète une grande maison. La maison s'appelle Verpré parce qu'il y a un grand pré vert juste à côté. Il y a beaucoup d'air pur, d'ailleurs aujourd'hui cette maison est une clinique. Mais il ne sait pas s'il pourrait y rester très longtemps, car quand même il ne se sent pas très bien. Mais tout ça ne regarde que lui, car maintenant il est grand, il se débrouille très bien tout seul, et il ne veut plus qu'on l'appelle Poor Little One, il veut qu'on lui donne son vrai nom, Houston Stuart Chamberlain. Liebenberg, 1901. Quand la voiture de Houston Stuart Chamberlain tourne le coin de l'allée du château de Liebenberg, il découvre soudain, pour l'accueillir devant le jardin paysager en demi-cercle qui orne l'entrée principale, les gens de la maison. Les invités, hommes et femmes, avec leurs domestiques, torches à la main. Et au milieu, l'empereur. Depuis le début de l'hiver, celui-ci, ordinairement incapable de fixer son attention plus de quelques secondes d'affilée, lit et relit obstinément, page après page, la Genèse du XIXe siècle. Le livre de Chamberlain. Le hôte a ménagé à ses invités une entrevue avant le dîner. Guillaume II troque pour l'occasion son costume de chasse contre son plus bel uniforme de parade. « Je vous remercie de ce que vous avez fait pour l'Allemagne, » dit-il à Chamberlain, qu'il ne quitte pas des yeux de toute la soirée, buvant avidement la moindre de ses paroles, comme l'observent interdits et jaloux les autres invités. Chamberlain et Guillaume II ne se reverront qu'une seule fois par la suite, mais échangeront jusqu'à la mort du premier une vaste correspondance. Les visiteurs de l'empereur s'habituent peu à peu aux longs commentaires des Grundlagen, quand ce ne sont pas d'entières soirées de lecture qu'il leur inflige dans son palais de Potsdam. Invités étrangers, membres de la suite impériale, reçoivent systématiquement leur exemplaire. La faveur dont jouit Chamberlain impressionne, étonne et effraie. Les gouvernements étrangers se procurent le livre, espérant y trouver enfin de quoi comprendre la politique étrangère de l'Allemagne. Ce qu'ils y lisent n'est pas pour les rassurer. Le public bourgeois, qui suit les modes de la cour comme des canetons leur maman, se précipite sur le livre. En 7 ans, l'édition ordinaire de la Genèse du XIXe siècle, 1200 pages en 200 gros volumes pour le prix d'une semaine à 10 jours de travail d'un ouvrier, se vendent à 60 000 exemplaires. En 1906, une édition populaire de poche abrégée de moitié, et puis en 10 jours, c'est 10 000 exemplaires. Est-ce qu'il faut que je précise quelque chose pour expliquer ce que je saute? Je ne crois pas. Donc Chamberlain devient à ce moment-là, pour la cour allemande, une espèce de théoricien de référence. Pour résumer rapidement, parce que ça peut être quand même intéressant, Chamberlain, comme Bobineau, n'a pas une théorie raciale de par son théorie de l'histoire universelle. Pour Chamberlain, il n'y a que deux races qui font l'histoire, qui sont des races réellement créatrices d'événements, qui sont la race germanique et la race juive. Les deux pour une raison similaire, qui est qu'elles sont deux races pures. La race germanique, de par son attachement essentiel et bien connu au sol allemand, et la race juive à cause de sa tendance à l'endogamie. Et Chamberlain dit toujours qu'il n'est pas antisémite, qu'il n'est pas partisan d'exterminer les juifs, mais qu'il est nécessaire de les foutre dehors parce que il n'y a pas de place pour tout le monde sur cette petite planète.